thème ou plutôt le titre que j'aimerais donner dans cette portion-là, c'est « Marcher sur le chemin divin, mais le chemin de la sainteté ». Je pense qu'il est important de marcher sur ce chemin-là et j'aimerais qu'on puisse voir, souvent on a l'impression qu'on voit la sainteté ou qu'on voit la perfection à l'intérieur de nos vies. Lorsque je parle de perfection, je ne parle pas qu'on est parfait parce qu'on ne sera jamais parfait. Sur cette terre, on va être parfait lorsque Dieu nous changera et qu'on sera pour l'éternité avec lui. Mais j'aimerais qu'on puisse voir notre relation et notre transformation à l'intérieur de notre vie comme un chemin sur lequel on marche. Et que trop de fois, on a l'impression qu'on y marche seul sur ce chemin divin-là. Trop de fois, on a l'impression que on y marche tout seul parce qu'on ne mérite pas que Dieu marche avec nous. On a l'impression, la condamnation, le jugement prend place à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Mais ce matin, ce que j'avais dans mon cœur, et c'est vers la fin de ce que je vais arriver vraiment dans cette dimension-là, de comprendre et de réaliser toute cette importance de ce que Dieu marche avec nous, que le Seigneur marche avec nous à l'intérieur de nos vies et qu'il veut être là, qu'il veut être celui qui nous tient, celui qui nous aide et celui qui veut faire toute la différence à l'intérieur de nos vies. D'abord et avant tout ce matin, j'aimerais qu'on puisse réaliser combien Dieu est un Dieu qui est saint. La parole de Dieu parle à plusieurs endroits de la sainteté de Dieu. J'aurais pu vous sortir maintes et maintes textes dans la parole, j'en ai choisi quelques-uns. Par exemple, il est dit dans Psaume chapitre 99, le verset 9, il est dit « Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. » Dans le texte, la parole déclare qu'il est saint. La sainteté de Dieu, alléluia, signifie une pureté morale et absolue dans la personne de Dieu. Cela signifie que Dieu est sans péché. La sainteté de Dieu est non seulement un attribut, mais elle dénote sa nature en elle-même. Sa personne et son caractère est saint. Sa personne et son caractère est sans péché. Lorsqu'on regarde dans notre société, certains films, certaines choses ont voulu amener la pensée que Jésus-Christ avait commis ou avait fait des péchés. On a atteint à la crédibilité, parce que si on commence à simplement penser, ou si on peut, si Dieu n'est pas saint, tout le reste n'est plus vrai. Ça veut dire, si Dieu n'est pas saint, il peut nous mentir. Si Dieu n'est pas saint, il peut être injuste. Si Dieu n'est pas saint, il peut faire du mal aux gens. Si Dieu n'est pas saint, il peut accomplir certaines choses qui est dans une certaine méchanceté. Mais lorsqu'on regarde ou qui dans la parole de Dieu, on découvre comment Dieu est saint. Les anges vont même reconnaître la sainteté de Dieu. Dans Isaïe chapitre 6, le verset 2, il y a toute une histoire qui prend place là, où il y a Isaïe qui est là, et Dieu, il y a une vision, il y a une révélation qui prend place, et dans toute cette révélation-là, il y a toute une dimension de sainteté qui prend place, et ça dit, il y a des séraphins, des anges qui se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Et ça, le texte dit qu'il criait à ce moment-là, il y avait une déclaration, un peu comme dans ce lieu ce matin, alors qu'on était en train de prier, d'intercéder, mais le texte dit que les anges, à ce moment-là, criaient l'un à l'autre, ils se déclaraient l'un à l'autre, et ça dit qu'ils disaient, « Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » J'aime ça parce que le texte ne dit pas que c'était le ciel qui était plein de sa gloire, mais c'était la terre qui était pleine de sa gloire. C'était son Église comme ce matin, alléluia, qui était pleine de sa gloire. C'était, alléluia, dans votre foyer, dont la sainteté de Dieu peut prendre place et veut prendre place, et où la gloire de Dieu, alléluia, veut se manifester à l'intérieur de votre foyer. C'est pas, souvent on pense que la gloire de Dieu est réservée pour les lieux célestes ou à d'autres endroits, mais j'aimerais nous dire que la gloire de Dieu, alléluia, à ce moment-là, remplissait, tout était plein de sa gloire, que toute la terre, et je le veux pour nos vies, je le veux pour notre église, je le veux pour notre région, pour notre province, alléluia, pour nos villes, nos foyers, nos vies familiales, nos relations, alléluia, conjoints, conjointes, nos relations avec nos parents et nos enfants, que la gloire de Dieu prenne place à l'intérieur de nos vies. J'aimerais nous dire que la sainteté de Dieu, c'est magnifique, c'est beau. Souvent, on regarde la sainteté de Dieu comme quelque chose qui peut nous apeurer, quelque chose qui peut nous amener la peur et toutes sortes de dimensions comme celle-là. Mais j'aimerais ce matin nous amener dans la pensée que la sainteté de Dieu, alléluia, c'est une chose qui est magnifique. Ça rend notre Dieu magnifique. Dans Exode chapitre 15 et le verset 11, ça dit « Qui est comme toi ?» Parmi les dieux éternels, dans la société, dans le monde de ce moment-là, il y avait des gens qui adoraient toutes sortes de dieux, qui avaient fait toutes sortes de dieux, mais le texte dit, qui est comme toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange et opérant des prodiges? Le texte dit qu'il était magnifique en sainteté. Le mot magnifique, c'est l'idée d'une grandeur, c'est l'idée d'être majestueux, c'est l'idée, alléluia, de vraiment pouvoir reconnaître. Et à ce moment-là, il est en train de dire que Dieu, dans sa sainteté, est plus glorieux que tout, est plus glorieux que tous les autres dieux que les hommes ou les gens pouvaient adorer ou se faire à ce moment-là, qui en fait, il était le seul Dieu qui était saint. Dans le psaume 30, le verset 5, ça dit « Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. » Alléluia, chantez ceux qui aiment Dieu, célébrez par vos louanges sa sainteté. Le texte dit que l'on peut être de ceux qui adorent Dieu, qui l'exaltent dans sa sainteté. J'aimerais nous dire ceci, on a souvent encore mentionné que la sainteté de Dieu amenait une séparation entre Dieu et les hommes, et bien sûr la réalité de ce que Dieu est saint, de ce qu'il ne peut pas accepter le péché, qu'il ne peut pas cautionner le péché, et alléluia, à travers cela, Jésus-Christ a donné sa vie, et à travers ça, il est celui qui va avoir cette communion, cette intimité, cette relation, alléluia, avec l'être humain. Et que sa sainteté n'est pas dans une dimension afin de nous briser, de nous détruire, de nous checker ou de trouver ce qu'on fait de mal, mais plutôt dans une dimension de reconnaître sa personne pour le fait de ce qu'il est, de ce qu'il peut accomplir, de ce qu'il veut faire et de ce que Dieu, alléluia, est saint. Et à cause de Jésus-Christ, c'est vrai que le péché nous séparait d'avec Dieu, mais le sacrifice de Christ nous donne la possibilité de s'approcher d'un Dieu saint, de pouvoir avoir une communion intime et personnelle avec lui. Bien sûr, nous sommes pécheurs, nous sommes tous des pécheurs. Dans Romains chapitre 3, le verset 23, ça dit « car tous ont péché ». C'est sans exception, c'est sans équivoque, « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Tout le péché nous privait de cette possibilité d'avoir cette relation, cette intimité avec lui. Et à travers ça, on a voulu enlever la pensée qu'il n'y a plus de péché. Le péché, ça n'existe pas. C'est une chose d'homme. Par exemple, l'athéiste nie que Dieu existe. Et s'il nie que Dieu existe, alors le péché n'existe pas. Il croit que l'on peut faire le mal ou aux autres, pratiquer le vice, mais tout cela en relation avec Dieu n'est pas un péché. On peut faire les choses, mais ça brise des gestes, ça fait des choses, et peut-être qu'on fait quelque chose de pas bien, mais Dieu, il n'y a rien à faire là-dedans, et Dieu n'existe pas. On peut penser aux déterministes qui, eux, à ce moment-là, affirment qu'il n'y a pas de libre arbitre, que ça n'existe pas. C'est une illusion et non pas une réalité. Alors, on imagine être libre, mais nos véritables choix sont dictés par les impulsions intérieures et des circonstances au-delà de notre contrôle. Et là, ils vont donner comme exemple, la fumée qui s'échappe de la cheminée monte et c'est simplement une pensée qu'elle est libre. Mais en fait, elle est gouvernée par la loi terrestre, donc les gens ne peuvent s'empêcher de vivre de la façon dans laquelle ils vivent et ne devraient pas être blâmés pour le mal qu'ils peuvent faire. Alors, simplement l'homme est simplement victime des circonstances ou de choses qui puissent passer à l'intérieur de leur vie. Par exemple, on pense à l'hédoniste qui, eux, croient, le mot grec veut dire plaisir, et c'est une théorie de vie qui est le bien et le meilleur dans la vie consiste à avoir du plaisir et à repousser la douleur, de sorte que la question n'est pas posée dans le sens « est-ce que c'est bien ?» mais plutôt « est-ce que cela me procure du plaisir ?» Alors, on n'est pas dans la dimension de se poser la question, est-ce que cela est une bonne chose? Est-ce que je suis en train de faire le bien? Mais plutôt dans la dimension, est-ce que cela me procure un plaisir? Alors, à ce moment-là, ils vont dire qu'est-ce qui est nécessaire et que bien sûr, on peut faire le mal. Bien sûr, on peut faire des choses qui peuvent accomplir certaines affaires qui vont briser les gens autour de nous, mais ce n'est pas un péché. Ce n'est simplement, c'est une, on est dans une innocence, faiblesse. Alors, c'est faux pas, c'est des fausses erreurs de jeunesse. C'est l'humain peut se tromper, c'est ce que la nature peut nous donner de faire, et c'est des fois même ce qui peut être même beau et juste. Et on peut cautionner certaines affaires dans cette dimension-là de ce qui peut prendre place à l'intérieur de nos vies. Encore, on peut parler de l'évolution. On en a vu un peu avec M. Saint-Hilaire lorsqu'il nous a fait cette étude. Et ce moment-là, eux vont souvent considérer que le péché n'existe pas, mais plutôt on hérite de ce qui était animaliste, c'est-à-dire primitif, de ce qui ressort de l'homme. Alors, selon eux, les animaux ne pêchent pas, dont l'homme ne pêche pas. Ils agissent selon leurs instincts naturels qui leur est dicté dans toute l'évolution des temps. Mais la Bible déclare que le péché existe, que c'est là et que le péché a été d'abord et avant tout avec Adam et Ève qui ont péché, pas d'abord envers l'un et l'autre. Adam n'a pas péché d'abord et avant tout envers Ève et Ève envers Adam, mais plutôt ils ont péché, ils étaient conscients qu'ils ont péché envers Dieu. La parole nous révèle que leur conscience, exactement à ce moment-là, a ressenti un sens où ils prenaient conscience qu'ils avaient péché, qu'ils avaient offensé Dieu. Et cela a pris part dans le fait où ils se sont cachés de Dieu. La culpabilité a pris place à l'intérieur de leur cœur. Nous pouvons dire que le péché n'existe pas, mais ce n'est pas parce que l'homme déclare que quelque chose n'existe pas que la chose n'existe pas vraiment. Et lorsqu'on regarde dans la parole, et je dirais ceci, la meilleure chose, ce n'est pas de dire que les choses n'existent pas lorsqu'elles sont là. On voit la réalité dans le cœur des gens, dans la personne souvent des gens, mais on a besoin de prendre part, de réaliser, de simplement de réaliser notre besoin de Dieu à travers ce moment-là. On peut faire ce qu'Acan a fait dans Josué chapitre 7 et le verset 20. Le texte nous dit qu'Acan, à ce moment-là, alors que Dieu leur avait demandé de dévouer par interdit, le verset 21, ça dit, verset 20, ça dit, Acan répondit à Josué, il dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. » Il va déclarer, il est vrai, il reconnaît à ce moment-là, et ça dit, il est vrai, ça dit que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Il dit, j'ai vu, on a regardé souvent, ça va prendre la même dimension, j'ai vu dans le butin un beau manteau de chinard. Alors, je ne sais pas si c'était un beau manteau de fourrure ou quoi que ce soit, je ne sais pas ce que ça avait l'air tant que ça, là, mais ça devait être quelque chose de beau. 200 siècles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 siècles, je les ai convoités. Je les ai pris, et le texte dit qu'il les avait cachés. Souvent, on peut faire ce que Acan a fait. On peut simplement aller dans cette même dimension, et le mot caché, c'est dissimuler, c'est enterrer, c'est enfouir. Et on peut, dans nos vies, à travers les situations, enfouir et de faire comme si les choses n'étaient pas. On peut cacher, lorsque tu regardes ça, tu dis, il avait caché au milieu de sa tente. Ça donne quoi d'avoir un lingot d'or si je ne peux pas le dépenser? Ça donne quoi d'avoir un beau manteau si je ne peux pas le mettre? Ça donne quoi d'avoir un siècle d'argent si je ne peux pas, si je peux pas aller dans le sud au mois de février? S'il fait fret dans ma tente, ça ne change rien dans ce qu'il y a à l'intérieur de nos vies. On a besoin de réaliser que des fois, on cache les choses, peut-être par une idée de possession, par une idée qu'on semble avoir quelque chose. La seule chose que je vois dans la dimension d'Acan, c'est la pensée de posséder quelque chose, d'avoir quelque chose de plus. Mais la réalité, c'est que cet homme-là avait moins à l'intérieur de sa vie. Alors, j'aimerais nous dire ceci, on n'a pas besoin de cacher. Dieu ne nous demande pas de cacher. Le Seigneur, alléluia, n'aime pas que nous cachions les choses, ou plutôt que l'on ne fasse pas faire face aux choses à l'intérieur, au péché à l'intérieur de nos vies. Lorsqu'on regarde dans la parole, on voit aussi dans Actes chapitre 5, le verset 3 avec Ananias et Saphira, et le texte dit « qu'ils ont caché à Dieu, qui en fait ils ont menti, mais ils vont dire, l'homme de Dieu, Pierre, va dire que c'est pas aux hommes qu'ils ont menti, c'est pas aux hommes qu'ils ont caché. Ils avaient le droit même de pas faire, de pas vendre, ils avaient le droit de garder, ils avaient le droit de tout faire à ce moment-là. Le problème, c'est qu'ils ont caché, qu'ils ont menti. Ils n'ont pas été droits, ils n'ont pas été honnêtes, ils ont trafiqué la vérité à ce moment-là. Il est vrai qu'ils avaient dit qu'ils avaient donné une portion, mais ils vont dire quelque chose qui n'est pas réel, qu'ils avaient tout donné. Ils n'avaient pas besoin de tout donner. Ils avaient juste besoin de dire ce qui était. Ils ont offensé Dieu à ce moment-là. Soyons plutôt comme le fils prodigue dans la parole. Lorsque dans le cœur du fils prodigue, il a pris conscience qu'il avait déshonoré, qu'il avait blessé Dieu à ce moment-là, le texte dit ceci. Alléluia, il fait part, et dans Luc chapitre 15, verset 18, ça dit, « Je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Je vais simplement dire ce qui en est, je ne cacherai pas les choses, je vais simplement le déclarer. Au verset 21, le texte dit du même livre de Luc chapitre 15, il dit, « Le fils lui dit, mon Père, lorsqu'il est arrivé devant son Père, lui dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et cela, c'est souvent la dimension qui prend place à l'intérieur de nos vies, l'indignité. Probablement que dans le cœur d'Adam et Ève, l'indignité pouvait prendre place. C'est la raison pour laquelle ils se sont cachés. Mais j'aimerais nous dire ceci, que lorsqu'on est prêt à ouvrir nos cœurs dans la présence de Dieu, qu'on est prêt à faire comme ce fils prodigue, qu'au lieu de cacher comme Achan, au lieu de mettre les choses et de dire ce qu'il n'est pas, mais plutôt si on est prêt à ouvrir nos cœurs, la Bible nous dit, alléluia, dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, ça dit, si nous confessons nos péchés, et là, dans notre société, on a amené la pensée de confesser aux hommes. On a appris à aller dans un endroit, confesser nos péchés à quelqu'un et que cette personne-là va nous donner une pénitence à faire, quelque chose à accomplir. Mais dans la structure de la parole de Dieu, dans la dimension, c'est les choses qui sont entre nous et Dieu. Si on a offensé quelqu'un, bien sûr, on peut demander pardon à quelqu'un de l'avoir blessé dans notre relation, mais avec notre conjointe, c'est bien de pouvoir le faire. Mais j'aimerais nous dire ceci, la parole de Dieu ne nous demande pas d'aller et que quelqu'un puisse nous donner une pénitence par rapport à quelque chose, mais la parole de Dieu nous amène dans la dimension que c'est avec Dieu dans lequel on a besoin de faire affaire. Ça dit, si nous confessons nos péchés, pas aux hommes, pas aux êtres humains, mais à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et ça dit, et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, lorsque tu regardes le texte, ce texte-là et que tu le lis au fils prodigue, on commence à comprendre la raison pour laquelle le Père a rétabli son fils dans la dignité d'être un fils. Pour lequel il ne l'a pas établi dans la dignité d'être un serviteur, parce que c'était aussi bien d'être un serviteur, mais il l'a rétabli dans la position plutôt, je dirais qu'il l'a rétabli ou encore il a pris la position. Mais je pense que pour cet homme, ce père-là, de rétablir ou de plutôt amener son fils, il dit, c'est pas d'un serviteur que je veux te rétablir dans la dignité dans laquelle tu étais auparavant, tu es mon fils et je vais t'établir là-dedans. Et le texte dit qu'il nous purifie de toute iniquité, qu'il est celui qui est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier. Encore là, le mot purifier, c'est le mot nettoyer, c'est le mot rendre pur, c'est même le mot qui veut dire être guéri. Il y a vraiment un symbole de restauration. Il y a vraiment un symbole dans ce texte-là. Si on confesse, si on n'est pas à cacher, mais qu'on est là à simplement confesser, j'aurais pu vous sortir des exemples, ça, même dans l'Ancien Testament. Cela a été vrai avec David. Mais alléluia, on sait comment Saül est celui qui a caché, comment Saül est celui qui a simplement pas voulu accepter, il a commencé à trouver des raisons pour lesquelles faire les choses, il a dissimulé, c'était pas si grave que ça, c'était pas si pire que ça, il a commencé à faire mention qu'il y avait des raisons, puis des bonnes raisons pour le faire. La réalité lorsque David lui est arrivé et que l'homme de Dieu lui a raconté l'histoire à propos de son péché. Le texte nous donne de voir qu'il a commencé, il est tombé à genoux, il a pleuré, il a demandé pardon. Et le texte nous dit, alléluia, que Dieu a été fidèle et juste pour lui pardonner. Que Dieu a été, l'a rendu pur, Dieu l'a nettoyé et il a été guéri. J'aimerais nous encourager ce matin dans la pensée que Dieu est là avec nous, à marcher sur ce chemin. Si on a vu que Dieu est un Dieu saint et que l'homme est un être pécheur, alléluia, est pécheur en soi. Et à travers tout ça, je vais vous dire ceci, qu'il est possible d'avoir et de pouvoir marcher sur ce même chemin. S'il y a un désir, un choix, une volonté à l'intérieur de nos propres vies, de vouloir marcher avec le Seigneur, de reconnaître et de marcher sur ce chemin divin, j'aimerais nous dire ce matin qu'il est possible de marcher avec Dieu. Parce qu'il y a un prix qui a été payé. Bien sûr, si on ne veut pas marcher sur ce chemin, Dieu ne peut pas marcher sur ce chemin-là ça, avec nous. Mais alléluia, si on veut, Dieu va être là. Le Seigneur est celui dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit va être là à l'intérieur de nos vies et va nous amener, va marcher avec nous. Parce qu'il y a un prix qui a été payé pour nos péchés. Lorsqu'on regarde dans Romains, tantôt on a lu une portion du texte, le verset 23, mais si on lit le verset 24, on comprend la pensée générale de Dieu. Ça dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est l'état de ce qu'on est, de ce qu'on était. Ça dit le verset 24, ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par les capacités humaines, ce n'est pas par les possibilités humaines. Alléluia, rien ne nous donnait la possibilité d'être pardonnés, mais le texte nous dit que par le sacrifice de Christ à la croix, tous ont la possibilité de pouvoir, si on reconnaît Jésus comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, qu'on le reconnaît comme le Messie, celui qui veut prendre place à l'intérieur de nos vies, celui qui est venu sur la terre, mais celui qui veut venir dans notre cœur, il est celui, alléluia, qui nous donne que l'on peut être pardonné et que l'on peut avoir cette communion. Ce qui nous séparait maintenant a été pardonné et cela nous donne la possibilité d'avoir une communion et une relation avec Dieu intime et personnel. Et lorsque l'on regarde la raison pour laquelle Dieu l'a fait, c'est très clair dans la parole. C'est très clair la raison pour laquelle Dieu le fait, parce qu'il était saint, parce qu'il était pécheur. Et comment maintenant, alléluia, on peut rétablir la possibilité de faire un rapprochement et d'avoir une communion. Et j'aimerais nous dire ceci, que même si l'homme peut être loin de Dieu, l'amour de Dieu ne change pas. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre. Dans Jean 3,16, un texte qu'on connaît bien, chacun d'entre nous, ça dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais nous dire ceci, on a besoin de la grâce de Dieu à l'intérieur de nos vies, on a besoin de Jésus-Christ, et l'amour de Dieu est réel pour chacun d'entre nous. J'aimerais nous dire ceci, Dieu n'aime pas nécessairement le péché, mais il aime le pécheur. Il est prêt à sacrifier son Fils. Jésus est prêt à donner sa vie, alléluia, pour chaque personne, chaque individu, chaque personne. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Lorsqu'on regarde sur la terre, l'homme a, lui, tendance des fois à cataloguer des choses, à mettre des choses par rapport à d'autres et de commencer à regarder des petites, des grandes, des grandes affaires, des petites affaires. Mais j'aimerais nous dire que ce n'est pas le regard de Dieu sur l'être humain. Chaque personne est un pécheur, quel qu'il soit. Mais à travers ça, Dieu, alléluia, est celui qui a rétabli. J'aimerais nous dire ceci, que Dieu est celui qui peut le faire. J'aimerais qu'on va voir une vidéo ensemble sur les vers. C'est écrit en anglais. Il y a Jésus-Christ, il y a toi, puis il y a sin, le péché. Alors, vous allez voir qu'il y a deux vers, trois vers en fait. Et qu'est-ce qui prend place lorsque Jésus prend place à l'intérieur de nos vies et comment ça change les choses? choses sont faites dans la dimension de ce que Jésus-Christ peut nous rendre purs. Ce qui était le péché à l'intérieur de nos vies, le Seigneur est celui qui peut l'accomplir, qui peut le faire. On peut essayer de toutes sortes de façons, on peut penser que les choses que l'on va pouvoir faire, mais si on veut marcher sur ce chemin divin, le Seigneur est celui qui l'accomplira à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Et marcher sur ce chemin divin de sainteté, c'est marcher vers Dieu. J'aimerais nous dire ceci. Souvent, on a apporté la pensée que marcher dans la sainteté, c'est s'éloigner du péché. Et juste, c'est vrai. Mais j'aimerais nous amener une pensée un peu ce matin qui est celle-ci. Et si marcher dans la sainteté était davantage de marcher ou de s'approcher de Dieu? Et si c'était davantage de pouvoir s'approcher du Seigneur, de pouvoir, alléluia, s'approcher de Dieu? Et si s'approcher de Dieu, on peut essayer en tant qu'être humain de s'éloigner, de faire les choses mauvaises. Mais la réalité, c'est que le désir de Dieu, alléluia, c'est qu'on puisse s'approcher de lui, c'est qu'on puisse venir en sa présence, c'est qu'on puisse avoir une communion, une intimité, quelque chose de personnel avec Dieu. Il y a quelque chose d'intéressant dans le texte de la parole lorsque Jésus va être sur la croix et que cet homme-là, l'un des larrons, va dire à Jésus ceci et alléluia, va demander à Jésus. Il dit, Jésus, est-ce que je reconnais que tu es le Fils de Dieu et tout ça? Et là, il va dire à Jésus une parole. Il dit, Jésus, est-ce que tu peux faire, et là je le dis dans mes mots, mais est-ce que tu peux faire que je vais être dans ton royaume? C'est drôle que ce larron-là n'a pas dit, Jésus, j'aimerais que tu puisses venir avec moi là où je vais être. Mais plutôt que dans la dimension ou la pensée de cet homme-là qui est en train de mourir, qui est à l'agonie, sa pensée n'est pas que Jésus vienne là où il est, mais plutôt que Jésus l'amène là où lui va être. Est-ce que je peux être avec toi dans ton paradis? Souviens-toi de moi. Jésus dit, à ce moment-là, Jésus déclare, je n'irai pas là où tu es, mais je vais t'amener là où je suis. Pourtant, cet homme-là mourait sur la croix à cause d'une action qu'il avait posée, à cause d'un geste qu'il avait fait, parce qu'il était un homme méchant à ce moment-là, parce qu'il avait fait, probablement brisé des vies, probablement fait du mal, mais dans le texte qui est là, Jésus veut l'amener dans la purification, va l'amener vers lui, non pas le contraire. Je veux pas seulement m'éloigner du péché, je veux que la sainteté ne fait pas d'abord et avant tout seulement m'éloigner du péché, mais la sainteté m'amène à m'approcher de Dieu, à me tenir dans cette communion, dans cette relation-là avec le Seigneur. Dans Philippiens 3:12, ça dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Et sur cette marche-là, il y a des conséquences, bien sûr. L'une des conséquences du péché, c'est que cela nous sépare de Dieu, nous amène dans la discorde intérieure, la culpabilité, nous amène dans le jugement. Mais Dieu veut nous sortir de tout cela et nous amener sur le chemin divin, alléluia, de la sainteté et vivre une marche, une communion personnelle avec lui. Et l'apôtre Paul, sur ce chemin-là, n'était pas parfait. Il va dire, alléluia, chapitre Philippiens 3:12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Il est en train de dire, je marche sur ce chemin-là, j'ai pas remporté le prix, mais il dit, où je n'ai pas déjà atteint la perfection, mais je cours, je veux marcher, je veux aller vers Dieu pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. Ce qu'il est en train de dire, c'est pas seulement qu'il n'a pas atteint, mais il est en train de dire que Dieu, que Jésus-Christ l'attire, alléluia, vers lui, l'attire dans la sainteté, l'attire, alléluia, que sa vie soit changée vers cette perfection-là, d'être de jour en jour pas meilleur, pas chaque jour meilleur, mais chaque jour, alléluia, changé, transformé, être semblable à Dieu. Vous savez ceci, Dieu ne veut pas faire de nous quelqu'un de meilleur. Dieu veut faire de nous ses enfants, alléluia, qui vont lui donner la possibilité d'agir, d'accomplir à l'intérieur de nos vies ce qu'il veut faire. Dans le psaume 73, verset 28, il dit, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes ses œuvres. » J'aimerais nous dire que Dieu est celui qui va marcher avec nous, que Dieu est celui qui va marcher avec nous sur le chemin de sainteté. Il voudra s'approcher de toi. il voudra s'approcher de nous à travers tout ça. Lorsqu'on regarde en Genèse chapitre 3, verset 7, j'ai déjà dit à quelques reprises, ici à l'église, lui, je trouve ça phénoménal que ça soit, c'est Dieu qui aurait dû être offensé de ce que Adam et Ève, ils ont fait et ce que Dieu leur avait ont fait ce que Dieu leur avait demandé de ne pas faire. C'est Dieu qui aurait dû être offensé. Ça aurait dû être Adam et Ève qui courent après Dieu pour demander le pardon. Ça aurait dû être Adam et Ève qui va vers Dieu puis qui est là puis dit, Seigneur, je t'ai offensé. Mais c'est intéressant dans le texte parce que le texte nous dit, est-ce qu'on peut penser que Dieu ne le savait pas lorsqu'il est allé puis a appelé dans le jardin Adam et Ève? Est-ce que Dieu était dans la méconnaissance de ce qu'Adam et Ève avaient fait? La réalité, c'est que c'est non, Dieu savait très bien ce qu'Adam et Ève avaient fait. Mais dans le texte, c'est dit à ce moment-là que les yeux s'ouvrirent et le verset 8 dit, alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Dieu est là et est en train de les appeler, ils entendent la voix de Dieu. Le texte ne nous révèle pas tout ce qu'ils entendaient, mais ils entendaient de façon, dans leur cœur, ils entendaient la voix de Dieu dans le jardin. Et ça dit qu'à ce moment-là, ils se sont cachés. Le texte dit qu'ils se sont cachés au milieu des arbres du jardin. C'est comme si Dieu ne pouvait pas les trouver. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Ça dit qu'il est encore l'Éternel et celui qui a lancé un appel à Adam. Adam, où es-tu? Ève, où es-tu? Comme si Dieu ne pouvait pas savoir. Il a appelé Adam. Adam! Je ne sais pas s'il dit où es-tu, le texte ne dit pas, là, mais. Mais il a dit Adam, en tout cas. En tout cas, où il a dit l'homme? Où es-tu, ouin? Jess, tu connais plus ta Bible que moi. C'est comme. Où es-tu, Adam? Où es-tu, Ève? Il savait où il était. Mais on a besoin d'une réponse. Dieu sait où on est. Dieu sait où tu es. Dieu sait où je suis. Mais alléluia, le Seigneur nous appelle à plein de reprises dans la parole de Dieu. On découvre comment Dieu est celui qui a lancé des appels, que ce soit à Samuel, que ce soit d'autres hommes, d'autres femmes dans la Bible. Dieu les a appelés. On peut penser à Jésus qui a lancé l'appel aux disciples. Mais à ce moment-là, alléluia, le texte dit que Adam et Ève se sont cachés. Et le texte dit à ce moment-là, ils entendaient la voix de Dieu. Ils entendaient l'appel de Dieu dans le jardin. Le verset 10 dit, il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, Seigneur. J'ai entendu, combien de fois on a entendu l'appel de Dieu à l'intérieur de nos vies. Combien de fois on a entendu Dieu, le Saint-Esprit, parler à nos cœurs. Combien de fois, alléluia, Dieu s'est révélé à nos vies à travers des choses particulières que Dieu voulait nous amener à marcher dans la sainteté. Pas pour t'écraser. C'est intéressant parce que dans le texte ici, Dieu n'a pas parlé à Adam et Ève pour simplement, il aurait pu le faire des... Fini, là, on va en passer à un autre, on va en créer un autre qui va être peu plus parfait. C'est Dieu qui se révèle à eux. C'est Dieu qui, et Adam va dire, à ce moment-là, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Il dit, j'ai eu peur de tout cela parce que je suis nu et je suis caché là. Vous pourrez lire toute l'histoire dans le texte de la parole. Mais Adam et Ève, à ce moment-là, ils vont prendre des feuilles, ils vont se cacher comme si Dieu encore ne pouvait pas voir. Mais à travers tout ça, alléluia, Dieu est celui qui va entreprendre, que Dieu est celui qui va être là, que Dieu est celui, alléluia, qui va agir. Et lorsque je regarde dans la parole, je découvre à plein de places que Dieu va donner les possibilités que ça soit Saül. David qui va aller avec Bathsheba, qui va tuer ça, qui va faire tuer son mari, tout ça. Puis Dieu envoie le serviteur de Dieu pour lui parler et l'amener, alléluia, à la repentance. Dieu aurait pu juste se clouer de là, mais dans sa grâce et sa bonté, dans son amour, Dieu se révèle à David. Dans Genèse chapitre 3, le verset 21, ça dit qu'alors que David, pas David, mais alors qu'Adam et Ève avaient pris et s'étaient cachés avec des feuilles, Dieu est celui qui va, et c'est le premier symbole du sacrifice de Christ, ou l'un des premiers symboles du sacrifice de Christ, où Dieu pourvoit pour revêtir Adam et Ève. C'est Dieu qui encore leur fait l'action pour revêtir ces hommes. J'aimerais nous dire ceci, que Dieu sera là dans la bataille, sera là dans les batailles et pour nous donner la victoire sur ce chemin de sainteté-là. Dieu connaît nos batailles si on veut être vrai devant lui. Dieu est celui qui connaît ces batailles. Le Seigneur est celui
qui veut nous donner la délivrance. J'ai invité les musiciens à venir nous rejoindre.
Il sera celui qui donnera la délivrance, celui qui amènera la délivrance à l'intérieur de nos vies. On peut, dans notre société, on a commencé à appeler toutes sortes de choses, toutes sortes de façons pour enlever le mot péché. Mais la réalité, c'est si on veut juste se tourner vers le Seigneur, Dieu n'est pas celui qui le rejettera. Dieu n'est pas celui qui tassera l'homme. Dieu n'est pas celui qui rejettera l'être humain. Mais Dieu est celui, alléluia, qui lance un appel pour chacun d'entre nous. À un moment donné, Adam et Ève ont dû répondre. À un moment donné, Adam et Ève ont dû faire savoir. À un moment donné, ils ont dû répondre à l'appel de Dieu. Quand le Saint-Esprit nous parle à l'intérieur de nos cœurs, il est celui qui veut amener la délivrance à l'intérieur de nos vies. Il est celui qui veut marcher, non pas des fois dans des situations, tu peux avoir l'impression de marcher seul ou tu te sens coupable, la condamnation. Je vais vous dire ceci, c'est pas la raison pour laquelle Dieu d'abord et avant tout nous amène. Bien sûr, le Saint-Esprit est celui qui nous convainc. Le Saint-Esprit est celui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et alléluia, on a besoin de marcher sur ce chemin divin. Je vais dire quatre choses rapidement. Je vais simplement vraiment m'arrêter rapidement. Quatre choses qui vont nous aider à marcher sur le chemin divin. Premièrement, laissez le Saint-Esprit nous convaincre. Permets à Dieu de t'appeler, alléluia, dans le jardin de ta vie. Permets au Seigneur de t'appeler dans le jardin de ta vie. Permets à Dieu, on va jouer dans juste une couple de minutes, le deuxième chant de ce matin qu'on a chanté, le deuxième chant. De laisser, alléluia, le Saint-Esprit parler à ton cœur. Refuse pas ce que Dieu peut parler à ta vie. Sois capable d'entendre. Deuxièmement, la repentance. Viens avec repentance devant Dieu. La repentance, ce n'est pas un symbole de faiblesse, mais de reconnaissance. De reconnaître qu'on a besoin de demander, de reconnaître la repentance et reconnaître que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous et qu'il est celui qui, parce qu'il est, on peut être pardonné. Troisièmement, se détourner du péché pour se tourner vers Dieu. Alléluia, c'est pour cela tantôt que j'ai dit. Si c'était plutôt de, on ne veut pas s'éloigner du péché, mais on veut s'approcher de Dieu. Et alléluia, quatrièmement, de jour en jour, jour après jour, marcher sur le chemin divin. Les siens peuvent commencer à jouer doucement. De marcher sur le chemin divin, de réaliser que chaque jour, je n'ai pas atteint la perfection. Je n'ai pas atteint tout ce que je voulais atteindre. Chacun d'entre nous, on sait ce qu'on a besoin, mais Dieu, alléluia, est celui qui veut marcher, qui veut être avec toi. Dieu n'est pas en train de te pousser et de dire « vas-y ». Ou encore, Dieu n'est pas au bout du chemin en disant « je t'attends, j'attends que tu arrives ». Mais Dieu est celui qui, jour après jour, veut marcher avec toi, veut être là, veut t'assister, veut te soutenir, veut te donner victoire. Mais on a besoin de réaliser comment Dieu est et ce qu'il veut faire. Je termine avec deux textes ce matin. C'est des super de textes pour moi qui parlent de la sainteté de Dieu. Et à travers toute cette parole-là, depuis quelques temps, il y a comme une dimension de la sainteté, c'est pas quelque chose qui doit m'amener dans la dimension de m'éloigner de Dieu. Mais la sainteté de Dieu doit m'amener dans un désir de vouloir marcher sur ce chemin-là. De vouloir lui plaire dans ma vie personnelle, autour de moi. Et dans le Psaume, chapitre 65, le verset 5 dit ceci. « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassaisirons du bonheur de ta maison. » Et là, le texte dit « de la sainteté de ton temple. » Je vais me rassasier de la sainteté de Dieu. Je vais me rassasier, alléluia, de la personne de Dieu, dans ce qu'il est, de sa personne. La communion, la relation, c'est pas possible de venir. Je peux pas juste me délecter d'une chose par rapport à... Je veux pas juste me délecter de son amour. Je veux me délecter de sa sainteté. Et dans Isaïe 57, le verset 15, remarquez ce qu'il est dit dans ce texte. Ça dit, car ainsi parle Dieu très haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Il y dit, j'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté. J'habite dans les lieux élevés. Je suis saint, j'habite dans un endroit saint. Mais ça dit, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. afin de ranimer, alléluia, les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Il se dit, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Dans le texte, ça dit comment Dieu est un Dieu qui est saint. Comment Dieu, alléluia, habite les lieux élevés. Mais alléluia, dans toute sa sainteté, dans toute sa grandeur. J'aimerais nous dire ceci. Dieu n'est pas un Dieu qui habite un royaume, une place où simplement l'homme vit ses affaires, l'homme vit ses choses, puis qu'il y a toute une distance entre les deux. J'aimerais nous dire ceci, que Dieu veut être présent à l'intérieur de ta vie, que Dieu ne veut pas simplement que l'on puisse marcher dans la sainteté parce qu'il est digne, mais Dieu veut nous donner de marcher dans la sainteté en étant avec nous, en nous aidant, en étant notre force, en nous donnant la délivrance, en changeant et transformant nos vies. Il dit dans le texte, alléluia, j'habite dans les lieux élevés, mais je suis le roi des rois, le Dieu, l'éternel, le très haut, le Dieu saint, je suis, mais le je suis est avec l'homme contrit et humilié. Je veux dire ceci en terminant ce matin. Sur ce chemin de sainteté, Dieu n'est pas ton adversaire. Il est ton aide. Il est ton soutien. Il est celui qui peut changer. Celui qui peut délivrer. Et le Seigneur est celui qui veut marcher avec toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble? On va chanter ce chant un instant. Ce chant dit ceci, alléluia. Ça dit, le titre, c'est « En toi, je sais qui je suis ». On a besoin de savoir qui on est ce matin. Qui es-tu aujourd'hui? Qui je suis pour que le roi des cieux montre ses bras, perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Il m'a libéré ma dette et payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Ce matin, alléluia, si tu veux marcher sur ce chemin-là, Dieu marchera avec toi. Si tu ne veux pas y être, c'est ton choix. Dieu ne te forcera pas. Le Seigneur ne t'obligera pas. Mais je veux dire ceci, par exemple. Dieu te donne la grâce et la possibilité de marcher sur ce chemin. Ce matin, je vais faire un appel ici en avant. Et l'appel est celui-ci. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie qui tu réalises que le Saint-Esprit te parle depuis un certain temps et que tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je choisis de marcher sur ce chemin divin. Je décide aujourd'hui. Seigneur, je veux être de celui qui est comme le Fils prodigue, qui veut juste venir devant toi et de dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin que tu interviennes à l'intérieur de ma vie. Pas parce que je me sens, je veux m'éloigner, mais plutôt parce que, Seigneur, je veux m'approcher de toi. Je ne veux pas m'éloigner du péché, Seigneur, aujourd'hui, je choisis de m'approcher de toi. Parce que, Seigneur, tu es celui, alléluia, qui est présent avec l'homme humilié et le cœur contrit. Ce matin, je ne veux pas te sortir de ce lieu avec le jugement, mais avec le sentiment, alléluia, que Dieu marche avec toi, que Dieu veut batailler avec toi, que ce n'est pas fini, que ce n'est pas terminé, que tu n'es pas vaincu, que si tu veux permettre à Dieu, le Seigneur est celui qui va te rendre capable, que Dieu est celui qui va te soutenir, que Dieu est celui qui va être là, que le Seigneur est celui qui va l'accomplir. Et ce matin, si tu veux t'approcher devant le Seigneur, alléluia. On veut te donner la liberté de le faire. Pour dire ceci, on n'est pas dans une dimension de jugement ce matin. Mais entre nous et le Seigneur. L'autre chose, c'est peut-être juste le goût de t'approcher devant le Seigneur aujourd'hui. Puis de juste dire Dieu. Je veux juste te dire que je t'aime. Pour quelque chose dans ta vie en particulier, mais tu veux juste t'approcher. Je veux te donner l'opportunité de juste venir devant ce matin. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va prier pour toi. Peut-être pas non plus. Mais je vais juste dire ceci, on va faire quelque chose ensemble. Ceux qui prient avec moi, je vais vous encourager à ceci. Vous ne demanderez à personne la chose pour laquelle ils aimeraient que vous puissiez prier. C'est entre eux et le Seigneur. Si toi, qui s'avance, tu veux le dire, tu auras la liberté de le faire. Mais pour ceux qui prient, on ne demandera à personne. On veut juste prier pour toi. On veut juste être avec toi. On veut juste te soutenir. On veut juste être ensemble ce matin. Parce que, alléluia, on marche ensemble à travers tout ça. Et de juste pouvoir s'arrêter devant le Seigneur, prier avec simplicité. Et de simplement dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, on veut s'engager à marcher sur ce chemin ensemble. Alors, on va chanter ce chant et avancer sans gêne, si vous voulez, de simplement prendre un moment avec le Seigneur aujourd'hui. De croire que Dieu est celui qui veut le faire à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Et savoir qui on est ce matin. Alors,